I've seen things you people wouldn't believe.
Écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan.
Bonjour à tous. La rentrée a commencé tristement avec la mort de Jean-Paul Belmondo mercredi 6 septembre 2021. La nouvelle fut brutale car il était sans doute le plus sympathique et populaire des derniers grands monuments du cinéma français. Il a incarné à merveille trois grands types de rôles. Le comique fantasque, une sorte de Vittorio Gassman en plus rigolo, le dur à cuire, flic, voyou ou arnaqueur, un Lino Ventura en plus sympathique, et le héros aventurier, un mélange d'Indiana Jones, D'Artagnan et James Bond en plus bouillonnant. Alors bien sûr, il a également interprété beaucoup d'autres types de rôles, de façon tout aussi convaincante, mais ce sont vraiment ces trois caractères-là qui se sont toujours entremêlés dans sa filmographie et qui en constituent les fils rouges, car ce sont ceux qui correspondent le plus à sa personnalité profonde. Car comme dirait Arte, c'était quoi Belmondo dans la vraie vie? Trois choses à savoir. Ce n'était pas vraiment un cérébral torturé, comme il le disait lui-même. C'était avant tout un gamin, jovial et hyperactif. Il passait son temps à faire des blagues de façon presque industrielle, d'où son talent comique. Ensuite, c'était un sportif, athlétique, avec du caractère et goût du risque. Il a fait de la boxe, et même envisagé d'en faire sa carrière, d'où sa crédibilité dans les rôles de dur. Enfin, il s'est formé au théâtre. Il ne rêvait pas de cinéma, mais de la comédie française, d'où son côté grandiloquent et cabotin. Sociologiquement, c'était un mélange de bourgeoisie et de populaire. Issu d'une famille artiste de Saint-Germain-des-Prés, il était aussi à l'aise sur les rings que dans les bars miteux, que sur les scènes luxuriantes des théâtres. Il agrégeait tout ça comme Jean Gabin. Mais à la différence de celui-ci, il ne réussira pas à franchir le cap de la vieillesse sur les écrans. Celui de la maturité, oui, et avec énormément de succès dans les années 70-80, mais pas celui des cheveux blancs, contrairement à Gabin qui a complètement relancé sa carrière au milieu des années 50. Il faut croire que pour le public et les réalisateurs, il devait rester éternellement le jeune homme décontracté ou le cascadeur inarrêtable.
Où et quand on reconnaît le vrai Belmondo? Est-ce que c'est sur l'écran ou plutôt en profondeur?
Mais je sais pas, non, sur l'écran, vous savez, souvent les gens vous identifient à ce qu'on est sur l'écran, on s'imagine. C'est-à-dire, moi j'ai joué pas mal de dur, disons, ou de rigolo. Alors les gens ont plutôt tendance, quand ils me voient dans la rue, à me taper sur l'épaule et rigoler avec moi. Mais disons que si j'avais débuté par Léon Morin-Prête, par exemple, et que Léon Morin-Prête ait fait un gros succès, peut-être l'attitude des gens aurait changé. Mais tel que sont les gens avec moi, je trouve ça très bien. Et ce que je suis vraiment, je crois qu'il n'y a que moi qui le sais, mais je le garde pour moi.
Et qu'est-ce que vous êtes?
Oh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien vivre tranquillement et bien profiter de la vie.
Timide
sans plus.
Un peu,
mais je crois que souvent les acteurs sont timides, c'est pour ça qu'ils vont sur scène.
Alors comment aborder sa carrière qui compte près de 80 films? Je pense pas qu'on puisse identifier des périodes bien distinctes, des blocs correspondant aux différents types de rôles que je viens d'évoquer, car tous les genres sont en permanence entremêlés tout au long de sa filmographie. Bien sûr, il y a des grandes étapes, mais elles ne sont pas définitives. Il ne se consacre pas qu'aux films d'auteur style Nouvelle Vague après À bout de souffle, ni au rôle d'aventure historique après Cartouche, pas plus qu'au polar après Peur sur la ville. Pour ma part, je me contente de le regarder grandir et distingue simplement les films de Belmondo jeune homme, souvent en noir et blanc, les films de l'âge adulte, ceux de la maturité dans les années 70-80 et ceux d'après la gloire jusqu'à la vieillesse. Je reviendrai ici uniquement sur les films de la jeunesse, lorsque la France le découvrait à la grande époque des années 60. Car si certains de ses premiers films sont restés mythiques, beaucoup de pépites sont aujourd'hui oubliées, contrairement à ses succès du milieu des années 70, où il se fait sûrement plaisir, mais en se caricaturant beaucoup, ce qui donnera des films assez peu intéressants, où il fera des choses étonnantes, mais qui ne vont pas nous étonner. On remonte donc le temps du côté de Saint-Germain-des-Prés, pour retrouver le jeune prodige à l'époque de la cigarette, dans les bars et du jazz.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Comme chacun sait, il explose très vite au cinéma avec la bombe À bout de souffle de Jean-Luc Godard, le film qui, avec les 400 coups de Truffaut, marquera la consécration de la nouvelle vague. Il porte donc sur ses épaules, avec Jean-Pierre Léaud, la reconnaissance du plus célèbre mouvement artistique de l'histoire du cinéma. Rien que ça. Mais il faut savoir qu'avant ça, il a tout de même déjà tourné dans 7 films, de 1957 à 1959, dans des seconds rôles plus ou moins importants. Un début de carrière à ne pas négliger, puisqu'il s'y frotte avec d'autres jeunes pousses concurrents comme Jean-Pierre Cassel, Laurent Terzieff et surtout Alain Delon, j'y reviendrai. Mais aussi avec Bourville, Arletty, Romy Schneider. Il se retrouve au passage sous la direction de deux grands cinéastes, Marcel Carné et Claude Chabrol. C'est ce dernier qui va lui donner son premier rôle important avec À double tour en 59, juste avant Godard. Un film à voir car sa présence est déjà éblouissante. L'autre grand cinéaste qui lui donne sa chance avant le succès d'À bout de souffle, c'est Claude Sautet avec Classe tout risque. Encore un second rôle, mais il est en face à face avec le grand Lino Ventura. Il est tourné quelques semaines seulement après le tournage d'À bout de souffle, qui n'est pas encore sorti. C'est donc une grosse prise de risque pour Sautet, qui devra se battre pour l'imposer à ses producteurs. Et avec raison, puisque le résultat est très bon et le duo fonctionne parfaitement entre l'ancien catcheur et l'ancien boxeur. À ne surtout pas louper. Mais c'est bien l'année suivante avec Godard que tout commence réellement. À bout de souffle, c'est la rencontre magique entre un acteur fou et farfelu et un réalisateur libre et inventif. Le combo gagnant entre l'inventivité intellectuelle d'un côté et physique de l'autre. Belmondo avait besoin qu'on le laisse improviser pour être vraiment lui-même, et Godard avait besoin de ce trublion pour créer une œuvre originale en se laissant aller dans l'improvisation totale. Ils se sont donc rendus possibles l'un l'autre.
Pourquoi tu veux pas recoucher avec moi?
Parce que je voudrais savoir. Il y a quelque chose chez vous que j'aime, mais je ne sais pas quoi. Je voudrais qu'on soit Roméo et Juliette.
Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça.
Tu vois, tu disais hier soir dans la voiture, tu pouvais pas te passer de moi. Tu peux très bien. Roméo pouvait pas se passer de Juliette, mais toi, tu peux.
Non, je ne peux pas me passer de toi.
Oh là là, ça c'est bien les idées des garçons.
Souris-moi. Bon. Je compte jusqu'à 8. Si à 8 tu ne m'as pas souri, je t'étrangle.
Alors à partir de là, c'est l'explosion. Du jour au lendemain, débute une carrière immense et fulgurante. Il délaisse le théâtre et enchaîne les films à un rythme effréné, généralement avec des premiers rôles pour plusieurs grands réalisateurs. Un parcours remarquable qui débute paradoxalement par un premier faux pas avec Moderato Cantabile. Un film dont peu de gens se souviennent et c'est normal. S'il faut en éviter un, c'est celui-là. Réalisé par l'anglais Peter Brook et adapté d'un roman de Marguerite Duras, c'est une œuvre particulièrement lourde et ennuyeuse dont il sera le premier à se plaindre. Dans son autobiographie, il n'y va d'ailleurs pas main morte, je cite « Jamais tournage ne m'a autant accablé. Moderato Cantabile me semblait encore plus chiant que l'ensemble du corps professoral français qui avait essayé de gâcher mon enfance. Le plateau était engoncé dans un intellectualisme ridicule. » Ça a le mérite d'être clair. Et au vu du résultat, on ne peut pas lui donner tort. Mais il se rattrape vite avec les distractions de Paul Frappier, un curieux long métrage où il campe un journaliste chargé de couvrir la fuite d'un homme ayant renversé un policier. Joué par Claude Brasseur, ce criminel se trouve être un de ses amis d'enfance. Il va alors se mettre en tête de l'aider à fuir en Espagne, mais trop intéressé par les femmes qu'il drague en ville, il perdra de vue son réfugié qui finira mal. C'est ensuite en Italie qu'il trouvera ses autres premiers grands rôles. Comme Blier, Ventura, Delon, Trintignant, Piccoli ou Depardieu, il participe lui aussi brillamment à l'âge d'or de ce cinéma, qui était peut-être à ce moment-là le plus grand du monde. Avec pour commencer trois films d'immenses cinéastes, La Ciociara de De Sica, La Novice de La Tuada et Le Mauvais Chemin de Bolognini. Tous passionnants. Mais je conseille en particulier le Bolognini avec Claudia Cardinale, où il incarne un fils de paysan qui se compromet dans un bordel. Et le De Sica avec Sophia Loren, un film choc où il joue un intellectuel communiste à lunettes. Un contre-emploi aussi étonnant que le fameux Léon Morin prêtre de Melville, auquel il participe juste après, en incarnant un personnage des plus sérieux. Celui-ci est à voir pour la curiosité, mais est un peu trop bavard et statique à mes yeux. De sa trilogie avec Melville, je retiendrai plutôt le troisième, L'aîné des fers chauds, sorti en 1963. Celui-ci débute par une belle scène de boxe à la Raging Bull, qui nous donne une bonne idée de ce qu'a pu être, à l'époque, l'acteur quand il combattait lui-même. On le suit après, dans une grande virée en voiture de New York à la Nouvelle-Orléans, où il assiste et se confronte au patriarche Charles Vanel, sur lequel il prendra progressivement l'ascendant. Sur la route, il rencontrera brièvement la belle italienne Stefania Sandrelli, en autostoppeuse, qui tombera sous son charme. On pourra d'ailleurs le suivre dans une autre escapade américaine 6 ans plus tard, avec Annie Girardot cette fois-ci, dans le beau film de Claude Lelouch, Un homme qui me plaît. Il y joue notamment à l'Indien et au cow-boy en voiture, dans une drôle de séquence fantasmée. On l'aperçoit aussi au bras d'Ursula Andress, sa compagne de l'époque. C'est presque un film américain pour celui qui ne tentera pas d'y faire carrière, car moins doué en anglais qu'en italien. En attendant, en 61, il retrouve Godard avec Une femme est une femme, aujourd'hui oublié et écrasé en Trabout de souffle et Pierrot le fou. Il forme pourtant un duo idéal avec Jean-Claude Brialy, tournant autour d'Anna Karina. C'est une petite merveille d'inventivité et de fantaisie, digne d'un Jacques Demy. Il retrouvera aussi Brialy dans La chasse à l'homme d'Edouard Molinaro, une comédie très amusante avec une scène hilarante entre Bernard Blier et Claude Rich.
Ça s'est terminé comment ?
Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes. Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de briller, gars, je prends tes cartes. »
Et son mari n'a rien dit ?
Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.
Durant ses jeunes années, de 61 à 65, il tourne aussi dans une série de thrillers dépaysants, mais un peu passés aux oubliettes. Par exemple, dans Un nommé La Rocca, de Jean Becker, il joue un gangster rangé des voitures, qui tire plus vite que son ombre, et prend la tête d'un établissement de malfrats pour aider un ami en prison. Mais à mi-parcours, l'histoire vire au film de prison, puisqu'il se retrouve lui-même enfermé avec son ami. Pour sortir plus vite, ils accepteront de participer à une mission de déminage, qui donnera lieu à des scènes angoissantes, où on les voit déterrer minutieusement les bombes au milieu d'un paysage désertique, tandis que leurs compagnons se font exploser les uns après les autres. Dans Échappement libre, du même cinéaste, il se glisse dans la peau d'un contrebandier qui volera la voiture remplie d'or qu'il était chargé de remettre à son commanditaire, interprété par le méchant de Goldfinger, dans une longue fuite haletante. D'ailleurs, la même année, en 64, il détourne aussi de l'argent dans le merveilleux, mais cette fois pas oublié, 100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil, une course-poursuite à mi-chemin entre Le Seigneur de la peur et Un taxi pour Tobrouk, où il retrouve Lino Ventura dans un affrontement mythique au milieu du désert, en compagnie de Bernard Blier et des dialogues inoubliables de Michel Audiard, dont on vient d'entendre un extrait. Enfin, avec Par un beau matin d'été de Jacques Deray, il participe au kidnapping de la toute jeune Géraldine Chaplin, qui ne lui résistera pas longtemps. Si le film manque un peu d'énergie, il vaut tout de même le détour, notamment pour sa première partie où Belmondo arnaque les prétendants de sa sœur avec sa complicité. Mais terminons ce tour d'horizon sélectif par une comédie sortie en 66, mais qui semble avoir été tournée juste à la sortie du conservatoire par Belmondo et son ami Jean-Pierre Mariel, Tendre voyou de Jean Becker, encore une fois. Il y incarne un don Juan pathétique et nous donne une bonne idée, dès sa première scène, de ce qu'a pu être l'extravagance de la fameuse bande du conservatoire, formée par Belmondo, Mariel, Rochefort et compagnie, durant leurs années de formation au théâtre.
Oh,
allez, tolère. Allez, couchez. Couchez. Non, mais j'ai horreur des goujins. Est-ce que je peux vous déposer quelque part?
Mais je ne sais pas si...
Mais j'ai ma voiture.
Bon, j'allais avenue Montaigne.
C'est la Providence qui m'envoie, je vais avenue Georges V. Ah, le reflet de vos cheveux dans la lumière. Je ressens encore ce petit pincement au cœur. Souvenir, souvenir, que me veux-tu?
Un mot à présent de son concurrent et ami Alain Delon. Le duo ou duel Delon-Belmondo est un peu notre duo Pacino-De Niro ou Stallone-Schwarzenegger. Deux icônes qui s'affrontent sur le même terrain, à la même époque, avec pratiquement le même succès. Le parallèle est évident en termes de carrière, mais pas de personnalité. Pour ce qui est de la carrière, ils débutent pratiquement au même moment. Ils n'ont que 3 ans d'écart et tournent ensemble dès le début dans Sois belle et tais-toi de Marc Allégret. C'est le 3e film de Belmondo et le 2e de Delon. Ils forment un duo de jeunes copains loupards, qu'il est très étonnant de revoir aujourd'hui avec le recul. Ils tournent tous les deux avec Romy Schneider avant d'exploser la même année en 1960, l'un avec À bout de souffle et l'autre avec Plein soleil de René Clément. Delon fera un passage tout aussi remarquable en Italie dans les années 60 avec Rocco et ses frères, puis L'éclipse et Le guépard. Il jouera lui aussi les héros costumés avec La tulipe noire et Zorro, et il prendra surtout la suite de Belmondo en devenant la nouvelle égérie de Melville, qui lui offre également une trilogie formée par Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un flic. Il jouera aussi un policier et un truand. Et ils se retrouveront d'ailleurs ensemble avec Borsalino, consacrant leur duo à l'écran, mais c'est rien de moins que 7 films dont ils partageront l'affiche au final, même s'ils n'y ont en général pas de scène ensemble. Ils prennent également tous les deux le relais de la génération Gabin et de son état d'esprit. Pour cela, ils ont d'ailleurs tous les deux passé avec brio l'examen de passage, en tenant droit face au patron dans des films remarquables. Un singe en hiver en 62 pour Belmondo et Mélodie en sous-sol en 63 pour Delon, qu'il le retrouvera plusieurs fois. Ils seront également à la hauteur du premier héritier de Gabin, Lino Ventura, second passage obligé, et assuré haut la main. On l'a vu avec Classe Touriste et 100 000 dollars au soleil pour Belmondo, et avec le clan des Siciliens et les aventuriers pour Delon. Belmondo va aussi côtoyer Bernard Blier, on l'a dit, mais surtout devenir une nouvelle source d'inspiration pour le dialoguiste Michel Audiard, ce qui vaut consécration pour l'entrée dans la famille. Delon et Belmondo n'auront malheureusement eux-mêmes pas de successeur à leur tour pour reprendre le flambeau dans les années 80. En revanche, pour ce qui est de la personnalité, le duo ne fonctionne plus du tout, Delon étant un taiseux caractériel et l'autre un déconneur permanent, au point qu'ils devront se tenir à l'écart l'un de l'autre sur le plateau de Borsalino. S'il fallait donc le comparer à un autre géant de ce point de vue, ce serait plutôt Depardieu, qui lui aussi passait son temps à rigoler sur les tournages, sans avoir besoin de se concentrer ni de se préparer longtemps pour ses rôles. On rêverait de voir ce que des tournages communs auraient donné avec ces deux-là, mais on peut en avoir une petite idée, puisque l'occasion s'est bel et bien présentée en 1974 avec le film Stavisky d'Alain René, dans lequel Gérard fait une petite apparition, mais suffisante pour déclencher une après-midi de fou rire entre les deux hommes, comme l'on pouvait s'y attendre. Depardieu pouvait aussi, comme son aîné, jouer la comédie, contrairement à Delon, et surtout devenir un déclamateur grandiloquent. Ce n'est pas un hasard s'il fut choisi pour interpréter Cyrano au cinéma, un rôle dont rêvait aussi Belmondo, et qu'il finira par tenir au théâtre.
Messieurs, votre accueil me bouleverse, mais ne saurait égarer mon jugement. J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte comme il n'est pas permis, et qu'il y fait un temps de merde.
Je suppose que monsieur plaisante.
Absolument pas.
Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet? 17.
Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil? Vous l'avez jamais vu, vous?
Voilà, cette émission touche à sa fin. Je pense qu'il était important de rendre hommage une nouvelle fois à cet immense acteur. Il me tenait aussi personnellement à cœur pour des raisons familiales, puisqu'il a interprété mon grand-oncle, le résistant Yvon Moranda, dans Paris Brûle-t-il en 66, où il participait à la libération de Paris. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à allumer vos écrans et partir à la recherche de tous ces trésors pour vous replonger dans ces folles aventures. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, dans un mois, sur Radio B.
On peut dire, Belmondo, maintenant que vous avez du métier, non ?
Ben ça commence, ça fait 16 ans que je suis acteur.
Mais quand on a du métier, on dispose des ficelles, c'est pas dangereux?
Oh non, parce que je crois que les ficelles, c'est une chose qu'on peut avoir au bout de 6 mois. Donc si on veut s'en servir, c'est pas... Les acteurs qui servent des ficelles, c'est pas parce qu'ils jouent depuis X années, qu'ils ont beaucoup de métiers. Je crois que c'est parce qu'il n'y a pas de tempérament au départ. Et alors c'est tout de suite la ficelle. C'est comme en boxe. Les boxeurs, ils accrochent dès le départ. C'est pas parce qu'ils ont 70 combats qu'ils accrochent, mais c'est qu'ils sont accrochés tout de suite.